C'est une femme que nous ne pourrons fixer sur une position. Elle ne cherche pas à avoir raison. Sa raison est toujours en mouvement.
J'aime pas beaucoup me faire épingler, me faire coincer, déterminer et définir par une activité, par un engagement, par une appartenance. Je tente d'échapper le plus possible à mes déterminations.
Prénom ?
Elisabeth.
Nom ?
Bourdeau de Fontenay. Elle signera rapidement de Fontenay.
Date de naissance ?
1934. Mais elle titrera un livre autobiographique, Acte de naissance au pluriel. Elle ne s'est pas révélée à elle-même en une fois.
Sa famille ?
Son père est un résistant de première importance, commissaire de la République en Normandie libérée, premier directeur de l'ENA. Sa mère, Nessia Ornstein, est d'origine juive. Quand lui est révélé le sort fait à sa famille maternelle, Elisabeth de Fontenay se considérera tout autrement.
Profession ?
Professeur de philosophie, ce qui est moins prétentieux que philosophe.
Carrière ?
Ah ben surtout pas. Elle enseigne à l'université, mais sans chercher à atteindre le grade de professeur. Un goût prononcé pour les sujets aux marges.
Ses livres ?
Les plus connus concernent le domaine animal, qu'elle a été une des premières à défricher. Elle a d'ailleurs produit pendant plusieurs années une émission sur France Inter, Vivre avec les bêtes. Son dialogue difficile avec son ami Alain Finkielkraut a donné lieu à En terrain miné, qui atteint un vaste public. Et son dernier livre, De républicaine fille de l'Ouest, aborde la question de la Vendée, toujours son goût, des sujets délaissés en terrain miné.
Quelle serait pour elle la forme de vie idéale ?
Bah sans doute à la campagne, avec un cheval et des amis à table.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Alors vous retrouverez dans cette émission la voix enregistrée de la productrice de Vivre avec les bêtes. Faut-il ajouter à la voix un portrait physique ?
Vous voulez que je me décrive ? Quelqu'un de sympathique. Une bonne tête de brave fille. Je ne suis pas sûre que je sois aussi brave fille que j'en ai l'air, mais quelque chose de très gentil et qui est probablement dû à mon éducation. Et une certaine douceur. Qui est souvent démenti par mon comportement et même par ma voix.
Elisabeth, bah c'est une dame, hein. Voilà. Qu'on dirait presque une grande dame. Comme on dit dans certaines familles, on sent la bonne famille, comme si les autres étaient mauvaises. Une dame qu'on écoute quand elle parle, un maintien, une tenue, une belle dame, quoi, voilà, une belle dame, une silhouette qui se détache du... Elle est quelque part, et sa voix se détache du bruit ambiant, et sa silhouette se détache du contexte.
C'est le résultat d'une éducation, après-guerre, au collège Sainte-Marie, chez des religieuses de haute tenue.
J'ai été élevée dans un collège catholique, où les petites filles, puis les jeunes filles, devaient se préparer au service d'autrui, et ne pas commettre le péché d'amour propre, d'amour de soi-même. Et c'est vrai que toutes les femmes qui ont été élevées comme je l'ai été ont beaucoup de mal à parler d'elles, à même s'intéresser à elles-mêmes. Il y a quelque chose de presque obscène. Et je ne dirais pas que c'est tellement un péché, mais disons que c'est de mauvais goût, c'est mal élevé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de parler de soi.
Mais vous avez gardé la règle ?
Non, sans doute pas, parce que je n'ai pas fait exactement ce qui était attendu de moi dans la vie. Je n'ai pas gardé la règle. C'est drôle cette question que vous me posez, parce que j'ai toujours été hantée par une phrase du dialogue des Carmélites de Bernanos. Quand Blanche de la Force rencontre pour la première fois la supérieure des Carmélites, elle lui explique qu'elle a besoin de rentrer au couvent pour être gardée par la règle. Et la supérieure lui répond, mon enfant, ça n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. J'ai gardé des habitudes de retrait par rapport à moi-même, ce qu'on peut appeler la belle âme, c'est-à-dire le droit de l'autre passe toujours avant son propre droit, même si cela entraîne quelques dépits et quelques amertumes.
Après une pareille éducation, elle a conçu l'enseignement, qu'elle a pratiqué sa vie durant, comme une dette à rendre au centuple. Son premier livre fut consacré à Marx. Bon, rien que de très attendu dans l'université de l'époque. Mais c'était les figures juives de Marx qui l'intéressaient. Rien de plus risqué. Du matérialisme du 19e, elle est ensuite passée à celui de Diderot. Un matérialisme enchanté, cette fois, qui faisait toute sa place au plaisir des arts. L'histoire pour Élisabeth de Fontenay, ça a donc été l'histoire de la lutte des classes, mais de plus en plus, c'est devenu l'histoire de l'interprétation. La professeure de philosophie cite et interprète. Les circonstances l'amènent à rendre proche à ses étudiants des pensées dont elle se sent éloignée, et pareillement, à tenir à distance des pensées qui lui sont proches, mais à qui elle ne veut pas conférer de privilèges. Un professeur va nous aider à renseigner au mieux Élisabeth de Fontenay, c'est Philippe Gimplovitz entendu il y a un instant. Ce n'est pas un professeur de philosophie, mais un historien de la musique et un musicien.
Elle pratique vraiment l'aphorisme de Sartre, penser contre soi-même. Quoi. Alors, quand elle était professeure de philosophie, outre le fait qu'elle se dit d'ailleurs aujourd'hui, elle se présente comme professeure de philosophie, hein, pas comme philosophe, un des silences dont elle parle, c'est le silence de sa propre voix par rapport aux grands philosophes. C'est faire parler des positions contraires. C'est extrêmement difficile, vous voyez, c'est extrêmement difficile de pas être schizophrène dans ces cas-là, hein, de pas être divisé au sens du moins divisé des antipsychiatres des années 70, hein, c'est d'être magnifiquement divisé. Bon, moi j'aime beaucoup cette femme, ça suppose à la fois un grand cœur et une grande intelligence et une fermeté dans le propos aussi. Parce qu'elle dit, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. On n'hésite pas.
L'enseignement, la conversation. Diriez-vous, Monsieur Lebrun, qu'Élisabeth de Fontenay, femme de parole, vit dans la division depuis que lui a été révélé le sort de sa famille maternelle?
En 1945, elle avait 11 ans, son père, commissaire de la République en Normandie, avait laissé traîner sur une table des photos de déportés prises après la libération des camps. Et plus tard, elle découvrira en effet que 5 membres de sa famille maternelle avaient connu ce sort qui l'avait laissé terrifiée.
Elle fait coexister, elle ne cache rien. Et effectivement, on peut dire qu'il y a du côté des Bourdeaux de Fontenay, du côté du père, d'ailleurs, un de ses premiers articles qu'elle signe en 80, peut-être pas un de ses premiers, mais un article très ancien et encore cité, Élisabeth Bourdeau de Fontenay. Elle assume, évidemment, le côté Fontenay et le côté Einstein, le côté de sa mère. Et précisément, le fait que sa mère, par ailleurs, baptisée catholique, hein, pour pouvoir épouser son père, ait tué jusqu'à son dernier souffle l'histoire de l'extermination, au fond, c'était un indisciple. C'était quelque chose dont on ne pouvait vraiment pas parler. Élisabeth a cette phrase extraordinaire. Elle dit « Je craignais qu'en parlant de ça avec ma mère, je la fasse mourir une deuxième fois. » Et l'anecdote, enfin, c'est peut-être une anecdote construite, c'est on a pris rendez-vous avec une amie pour enfin en parler, et la mère meurt avant de parler de l'indicible. Et chez elle, il y a ça encore, quoi. Comment faire parler l'indicible? Elle est issue de deux aristocrates. Elle peut se revendiquer tout en étant évidemment très pas du tout intimidante et pas du tout hautaine, hein, parce que quand on est avec Élisabeth, on est on est de plein pied. C'est une entre l'aristocratie du Berry, la famille paternelle remonte au XVIIIe siècle, l'aristocratie de la République. Son père a dirigé, a créé l'ENA, enfin, nommé par le général de Gaulle.
Ça, c'est le côté paternel.
Ça, c'est le côté paternel.
Et c'est une aristocratie du côté maternel?
Alors, il y a une aristocratie, oui, il y a une espèce d'aristocratie du côté maternel, c'est Odessa. une ville au sud de l'Ukraine, au bord de la mer Noire. Donc, Odessa, c'est, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux faire du name dropping, il y a des noms extraordinaires. D'abord, c'est la ville où est né le sionisme, avec les amants de Sion, les Ohev et Tzion. C'est la ville d'Isaac Babel, la ville de la littérature, c'est la ville de la Renaissance hébraïque, de la Renaissance littéraire hébraïque avec Bialik. C'est la ville de Trotsky, c'est la ville de la littérature populaire yiddish de Shalom Aleichem. C'est la ville d'où sont également originaires, si on doit tirer des lignes, je cite des noms, Serge Gainsbourg, Barbara, Bob Dylan, George Gershwin, Irène Némirovski, Kandinsky, pour parler des peintres. Donc il y a de la branche de ce côté-là aussi. Ouais.
Alors moi j'ai une autre question.
Oui.
Les aristocrates et les juifs ont la passion de la généalogie.
Oui.
Vous venez d'en donner la preuve.
Oui, je sais pas. Oui, moi je sais pas. Ça, bon, ça, j'aime pas trop. Enfin bon, oui, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Oui, voilà, j'étais. Je me suis dévoilé. Non, mais. Oui, je dirais pas ça comme ça, parce que c'est une passion secrète, c'est une passion tue la plupart du temps, parce qu'évidemment, être véritablement aristocrate, c'est le cacher, quoi, c'est le laisser percevoir, les quartiers de noblesse peuvent être des quartiers de faiblesse. Et il vaut mieux, je trouve qu'il y a plus de noblesse à parler de ces quartiers de faiblesse. Et je trouve qu'il y a pas mal de faiblesse à parler de ces quartiers de noblesse aussi.
Depuis la révélation du sort de la famille de sa mère, Élisabeth de Fontenay calcule les forces contraires qui s'exercent en son fort intérieur. Va-t-elle devenir une arène où s'affrontent un catholicisme antisémite et un judaïsme persécuté? Le catholicisme restera son ethos au plus profond. Mais, une fois qu'elle a instruit, sans circonstance atténuante, le procès des silences du pape Pie XII pendant la guerre, elle rompt avec l'Église. Et elle demeure prête à soupçonner chez les chrétiens, même les plus insoupçonnables, des ambiguïtés qu'elle voudrait lever. Ainsi, chez les jeunes étudiants résistants allemands de la Rose Blanche, exécutés par les nazis en 1943.
Je n'accepte pas l'expression « question juive ». La question juive peut vouloir dire « le problème juif ». Cela peut signifier le problème que les juifs posent aux non-juifs. J'ai ressenti comme une déchirure quand j'ai lu La Rose Blanche, ce livre sur ces jeunes résistants allemands qui se battaient au nom du protestantisme et qui ont été arrêtés, jugés et mis à mort. En 1943, ils avaient à l'université de Munich, où ils étaient étudiants, distribuer des tracts condamnant violemment la persécution des Juifs par les nazis. Mais ils avaient aussi écrit que les abominations hitlériennes ne pouvaient en aucun cas constituer une solution à la question juive. Cette manière d'argumenter et de mobiliser leurs camarades m'est restée en travers du cœur. On ne fait pas plus généreux, plus courageux, plus pur que ses garçons et ses filles, surtout ce frère et cette sœur qui s'appelaient Hans et Sophie Scholl. Ils sont des héros. Et qui suis-je pour aller chercher des poux dans leur tête décapitée? Pourtant, la force intacte de ce syntagme, la question juive qui réclamerait une solution, vous allez me dire que je fais peut-être de la dénégation, car en un sens, on ne peut nier qu'il y ait quelque chose comme une question juive, cela même que les fondateurs du sionisme ont décidé de résoudre en préparant l'établissement d'un État juif en Palestine. Mais en même temps, je ne veux pas me placer du côté des non-juifs qui parlent de la question juive. Les juifs diasporiques ne peuvent pas prendre à leur compte cette expression effroyablement simplificatrice. Je préfère parler de questionnement, questions que les juifs se posent et posent à propos de leur destin et questions aussi que les non-juifs leur adressent, questions susceptibles d'une réponse et non pas d'une solution.
Bon, Sartre écrit en 46-47, je ne sais plus, une réflexion sur la question juive. C'est une idée qui est, enfin, c'est une idée historique. pour les fondateurs du sionisme, la création de l'État d'Israël met très fin à la question juive. La question juive, c'est quoi? C'est cette différence inassimilable, quoi. Pardon de dire ça, mais ma mère disait, parler de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque ou l'alphabet yiddish, en disant toutes les lettres se ressemblent, sauf la lettre Yud, qui veut dire Yud, Yid, juif, qui est toute petite, alors que les autres lettres sont grandes, et elle disait, déjà là, on n'est pas comme les autres. Et donc, il y avait le souci chez cette femme, chez ma mère, d'être comme les autres. Et ce souci d'être comme les autres disait à quel point elle n'était pas être comme les autres. Et donc, c'est un sac de nœuds. Et dans ce que dit Elisabeth, pour revenir au martyr de la Rose Blanche, effectivement, je vois pas pourquoi elle recherche des... Effectivement, oui,
Et elle-même, d'ailleurs, elle se demande pourquoi elle recherche des...
Oui, elle cherche les... Oui, ben voilà, quoi. Donc, là, peut-être qu'il y a quelque chose de la... Il y a l'héritage du soupçon, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du soupçon juif envers une humanité qui ne nous comprendra jamais, quoi. Voilà. Et c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse pas comprendre ça. Par ailleurs. Parce que c'est pas compréhensible pour les juifs eux-mêmes.
Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. Qu'est-ce qu'on dit? Extermination, Shoah, génocide, catastrophe. Elle, qui est très soucieuse des mots, elle s'interroge d'ailleurs sur le fait qu'il y ait tant de mots pour désigner quelque chose qui ne se peut dire, quoi.
Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire?
Vous n'en utilisez aucun?
Aucun, personnellement. Non, aucun, parce que, bon... Il y avait un mot immédiat qui... Enfin, moi, le mot de mes parents, qui était le mot de l'après-guerre... C'était le mot désastre.
Pas de mots, pas de philosophie. Ou c'est très difficile, dit-elle.
Oui,
la philosophie d'Auschwitz, c'est très difficile.
Oui, alors d'abord, c'est très difficile, mais alors, justement, ça fait partie, encore une fois, on retrouve ces contradictions. Après avoir dit, comme Adorno, qu'il n'est plus possible de faire de la philosophie après Auschwitz, elle enseigne la philosophie. Effectivement, il y a quelque chose qui est intime, mais c'est toujours la même chose. On retrouve toujours la question du silence. Il faut faire silence. En même temps, il faut percer les murs du silence, tourner autour de la question du silence, de l'indicible.
Le pire, c'est la théologie de la Shoah.
Oui, alors le pire, c'est ça. Oui, non, mais
alors expliquez.
Ah ben non, mais le pire, c'est de téléphoner à Dieu pour lui demander du sel, lui demander quelles sont les frontières de l'État d'Israël, et lui demander de dire quel a été le sens de tout ça. Voilà. Ni on demande du sel, ni on demande une augmentation de salaire. À la limite, une bonne santé, ça suffit, quoi.
Et alors, le pire, c'est l'écart d'élèves prépubères, avec leur selfie et leur chahut, devant Auschwitz.
Non, mais ça, c'est dégueulasse. Pour moi, simplement aller à Auschwitz, c'est hors de question. Donc, alors effectivement, les gosses... Les drapeaux israéliens, les plus jamais ça, les chants patriotiques. Non, là, c'est pareil. Là, c'est pas la théologie de la Shoah, c'est le... Comment appeler ça? C'est le nationalisme. Moi, je reste fidèle à ce qui se disait en France après la guerre de 70. Ils pensaient toujours, n'en parlaient jamais. À la limite. Ou alors plutôt, non, mais plutôt, j'y pense, mais quand j'y pense, voilà, j'y pense, mais la chasse n'est pas ouverte en permanence, quoi. Voilà, c'est ça la chose. C'est, je peux y penser, ouais, si vous me permettez, enfin, j'ai un souvenir familial des, parce que je veux dire, on peut pas non plus dire, ça n'a pas existé. C'est le souvenir de mon père, qui, une fois par an et pendant une heure, je l'entendais hurler et pleurer. Hurler et pleurer. Mais c'était une heure par an. À un certain moment, voilà. Et puis après, yadla, comment dire en hébreu, en arabe, on avance.
Une question d'Elisabeth de Fontenay. Les Juifs ramenés par la déportation à l'histoire de leur peuple, avec laquelle ils avaient souvent rompu, tout à leur effort d'intégration, ont parfois, souvent, retrouvé, au moment de la mort, les mots de la prière. Et elle, Philippe Gimplowitz, toujours.
Non, elle n'a pas la foi. Je dirais qu'elle n'a pas la foi, ou elle a des fois, mais la foi en elle-même, elle dit « je n'ai jamais su prier ». Puis dans un interview, elle cite Geneviève Strauss qui dit « je n'ai pas assez de religion pour en changer ».
Nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais il n'y en a pas. Mais oui. Nous ne croyons pas en lui.
Oui.
C'est ça ?
Ben, ça pourrait être ça, oui. Alors ça, c'est effectivement, vous dites, vous citez une espèce de blague juive comme ça qui est, enfin, effectivement, il n'y a qu'un seul Dieu. Et surtout, rappelle-toi que nous ne croyons pas en lui. Donc il y a le peuple à la nucrede. Il y a ça, hein. C'est-à-dire là, dans l'Exode, ce à quoi se heurte Moïse quand il veut faire sortir ce peuple d'Égypte, c'est assez réticent, c'est assez, une espèce de chose de, c'est un peuple insomniaque, un peuple qui peut dire non à tout, y compris à lui-même. Donc il y a ça chez elle. Alors il y a quelque chose peut-être qui le, bon, je ne sais pas si elle le sait si bien que ça, mais en tout cas où elle est passée dessus, où elle le subodore, c'est que ce Dieu absent, ce Dieu auquel les Juifs ne croient pas, mais auquel ils sont attachés, est un Dieu qui précisément fait coexister des contraires et présente une image à la fois de miséricorde et de justice. Donc des images contraires.
Mais quand les Romains profanent le temple, qui vont jusqu'au lieu le plus sacré, ils s'étonnent de ne rien trouver. Et alors elle dit, voilà, c'est ça la singularité de la foi juive.
Ben oui, il n'y a rien. Oui. Il y a du silence. C'est incompréhensible à tout le monde et aux Juifs, en fait, c'est à tout le monde. Voilà.
Élisabeth de Fontenay marche au-dessus d'un autre gouffre. Sans doute est-il arrivé quelque chose d'indicible à son frère, plus jeune qu'elle de 2 ans. Il est devenu, il est resté, mutique. De sa famille, gagnée par l'ombre, il ne reste que cette minuscule fratrie, sans descendance, elle et lui, Gaspard de la Nuit.
Son frère malade mental, Gaspard de la Nuit, dont elle dit à la dernière page de son livre, qui est magnifique, elle donne son nom, Gilbert Jean, en disant que un jour, après l'avoir appelé Gaspard de la Nuit, comme c'est un poème d'Aloysius Bertrand, mais surtout une œuvre pour piano de Ravel, Maurice Ravel, un poème pour piano. Déjà, le sous-titre de l'œuvre est extraordinaire, parce que comment faire un poème pour un piano ? Je le dis parce que ça permet de comprendre aussi les choses. C'est injouable, Gaspard de la Nuit. Enfin, c'est une des œuvres les plus difficiles à jouer de la littérature pour piano, notamment le troisième mouvement. Il y a plein de notes. C'est horriblement compliqué et c'est... Bon, j'en fais la métaphore de ce qu'elle essaye de dire sur la maladie mentale, quoi. C'est que, avec tous les mots, avec toutes les notes, avec tout ce que l'on peut faire, on y arrive à peine et pourtant il faut essayer. Il y a beaucoup de silence contre lequel elle s'insurge, hein. Il y a le silence sur la Shoah, alors, il y a le silence des bêtes, évidemment, hein. Il y a son bouquin de 1998 sur pourquoi les philosophes ont-ils fait silence sur les bêtes, hein. En fait, c'est le silence des philosophes. C'est le silence des philosophes sur les bêtes. C'est le silence des bêtes. C'est ce qu'elle appelle l'énigme magnifique du silence des bêtes, de leur présence extraordinaire et comment peut-on être présent et silencieux. Et pour elle, c'est vraiment, elle qui maîtrise, hein, qui est une virtuose du langage. Elle s'arrête à ces gens silencieux, elle s'arrête à ces êtres silencieux.
Une anecdote, elle raconte dans le film consacré à la reine d'Angleterre qu'Elisabeth tombait en panne avec sa Range Rover dans un de ses domaines, oui, se retrouve face à un cerf, elle est sortie de la voiture, il y a un cerf qu'une chasse à cour avec ses gens à elle poursuit, et il y a un dévisagement mutuel du cerf et de la reine. Et peut-être que le cerf réussit à rendre expressif le visage de la reine.
Oui, oui, c'est vrai. Non, mais j'avoue, ça me fait sourire parce que vous savez qu'il y a la quatrième saison de The Crown qui commence par deux épisodes où on voit la scène du cerf. Oui, oui.
Chaque fois qu'il voyait tuer une bête, il s'efforçait de déterminer la différence entre lui et l'animal qu'on abattait. Souvent, il demeurait des heures entières à considérer, par exemple, un veau, avec sa tête, ses oreilles, son museau et ses narines. Il s'en approchait le plus possible à la toucher, comme il le faisait pour des inconnus, et s'égarait parfois jusqu'à se demander s'il ne lui serait pas possible, éventuellement, de pénétrer peu à peu par la pensée dans l'être intime d'une telle bête. Tous ses efforts tendaient à comprendre la différence qui le séparait de l'animal, et à certains moments, il était tellement plongé dans l'observation de ce dernier qu'il croyait réellement avoir vécu durant un bref instant la vie secrète de cette créature. Dans Anton Reiser de Carl Philipp Moritz, cité par Elisabeth de Fontenay.
C'est peut-être avec les chevaux qu'elle a longtemps monté qu'Elisabeth de Fontenay a le plus pratiqué ce dévisagement mutuel. Le cheval, l'animal le plus énigmatique. Le cheval si souvent utilisé à la chasse. La chasse qu'elle comprend de plus en plus mal. Certes, l'homme a le privilège d'avoir émergé de la lutte darwinienne des espèces, mais n'est-ce pas quand il se met à protéger ses congénères les plus faibles qu'il parvient vraiment à la civilisation? Et d'ailleurs, quel caractère propre, pour reprendre un vocabulaire ancien, cette rupture dans l'évolution qui a bénéficié à l'homme, lui confère-t-elle vraiment? Voilà quelques-unes des nombreuses questions que posa Elisabeth de Fontenay, d'abord dans 10 ans de séminaire à la Sorbonne, puis dans ses émissions sur France Inter.
Vivre avec les bêtes. Fabienne Chauvière, Elisabeth de Fontenay.
Elisabeth de Fontenay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe.
J'ai été professeur de philosophie.
Vous préférez ce terme?
Oui, parce que je trouve que philosophe, ça fait très prétentieux.
Alors, on va passer ensemble une année qui s'annonce très très excitante. Chaque semaine, vous allez recevoir un invité. Qu'avez-vous envie de partager avec les auditeurs?
Ben voilà, vivre avec les bêtes. Bien entendu, nos rendez-vous n'auront pas lieu avec les animaux eux-mêmes. On ne les verra pas en chair et en os, en griffes et dents, en plumes et fourrures. C'est avec ceux qui, par profession ou pour leur loisir, ont affaire à eux que je vais m'entretenir. Ceux qui partagent avec les animaux leur vie et leur maison. Ceux qui les soignent, ceux qui les montent, les attellent et les font courir. Mais rendez-vous aussi avec ceux qui dénoncent la façon dont on les élève et les abat, dont on les chasse et les pêche, et la cruauté avec laquelle on se livre sur eux, contre eux, à des jeux sanglants ou dégradants. Les bêtes nous demandent à la fois défense et illustration. Défense, car elles réclament qu'on les protège. Illustration, car on leur doit de mieux connaître leur merveilleuse diversité. Vous allez dire que les bêtes ne demandent rien puisqu'elles ne parlent pas. Eh bien, justement, c'est parce qu'elles n'usent pas de notre langage articulé qu'il nous appartient, en quelque sorte, de les représenter.
Grâce au pouvoir de la littérature, grâce aux travaux des naturalistes et des éthologues, et par ailleurs grâce à l'action des associations, nous, les êtres humains, nous pouvons parler au nom des espèces et des individus animaux, non pas parler à leur place, mais pour eux, de telle sorte que les animaux responsables que nous sommes leur accordent la place et les droits qui leur reviennent dans une société démocratique et sur une terre sauvegardée. Car avoir de la considération pour les animaux et veiller sur les conditions de leur vie et de leur mort, loin de mener à désaimer les hommes et à oublier le sort des plus démunis d'entre eux, c'est à l'inverse faire preuve d'une plus grande humanité et comprendre qu'aujourd'hui ou jamais, la solidarité entre les vivants est à l'ordre du jour.
France Inter, Intelligence Service, Jean Lebrun.
Monsieur Lebrun, Élisabeth de Fontenay n'a pas d'autre patrie que la France. Mais ce qui concerne Israël la touche au plus profond.
Rétrospectivement, elle a pensé que l'État d'Israël, à ses débuts, dans son souci d'aller de l'avant, avait trop tourné le dos à l'extermination. Mais elle trouve aussi qu'après avoir organisé le procès d'Eichmann, il en a sans doute trop fait en mettant la Shoah au centre d'intérêts politiques immédiats.
C'est une émotive. Enfin, c'est pour ça que c'est une personnalité, je trouve, exceptionnelle. Elle est cérébrale et extrêmement sentimentale. Elle est pour la coexistence des contraires. Et elle dit qu'il ne faut pas hésiter un instant quand il faut choisir. Et là, effectivement, il y a quelque chose de tripal en elle sur son... Je ne sais pas comment appeler ça, mais elle est profondément attachée à la... Comment dire ça, à une permanence juive ou à une souveraineté juive en terre d'Israël, en tout cas. Tout en étant, mais ultra critique. Et je dirais, pour être parfaitement juste, en n'aimant pas beaucoup Israël. Hein. Israël est trop oriental pour elle.
Israël, c'est un mélange d'oriental et d'occidental, de romantisme, de réalisme, de force et de vulnérabilité. Cela n'est jamais apparu aussi clairement qu'en 1967, pendant la guerre des Six Jours, dans ce moment d'hésitation qu'ont vécu les Juifs de la diaspora en union avec les Israéliens. Le pays aurait pu être rejeté à la mer, et au bout du compte, il est allé jusqu'au Sinaï, au mont du Temple.
Alors que nous faisions route vers le canal, en plein Sinaï, tous dans la nation juive s'étaient figés. Les cœurs, un instant, s'étaient arrêtés quand la radio avait annoncé que Jérusalem était unifiée. Je me souviens, c'était le mercredi, et ce message sonne maintenant comme le slogan d'un film sioniste. Le mont est dans nos mains. Le temple est dans nos mains. Mais ce message a couru comme une flamme sur les réseaux de transmission. Tout le réseau militaire, partout, que ce soit dans l'ouest du Sinaï ou à l'avant-garde de notre brigade, chacun répétait ces mots. C'est parti du commandement. C'est descendu jusqu'au peloton.
En 1967, c'est pour Élisabeth de Fontenay, comme pour bien d'autres juifs de la diaspora, on pense à Raymond Aron, un moment déclencheur. Elle défend bec et ongle l'État hébreu, mais le but pour elle, c'est la paix et la reconnaissance par cet État hébreu d'un État palestinien doté des mêmes droits que lui.
quand elle apprend que l'ONU assimile le sionisme à un racisme, en 1974, elle s'insurge. Quand elle apprend que l'UNESCO refuse d'inscrire Israël dans une région du monde, elle s'insurge également. Elle est de ce côté-là, quoi, du côté d'un Israël vulnérable, d'un Israël moral, de l'Israël de la paix maintenant.
Alors, vous l'avez connue à la paix maintenant.
Oui, je l'ai connue à la paix maintenant. Oui, je l'ai connue ne refusant jamais d'être présente à la tribune, disant nous. Notre mouvement, étant très fier de rencontrer des Israéliens... Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. D'abord, de rencontrer des Israéliens selon son cœur. Alors, ces Israéliens selon son cœur, c'est des Israéliens qui appartiennent à la légende d'Israël. C'est des agriculteurs intellectuels. C'est, par exemple... je vais citer un nom encore, Yuli Tamir, qui était officier en avant-poste dans la guerre de Kippour, qui est devenue ministre de l'Éducation... et une des fondatrices de la paix maintenant. C'est donc ce genre de personnages, paysans, travailleurs, intellectuels, partisans d'une paix juste avec les Palestiniens. Elle est vraiment sur cette ligne-là, sans aucun doute. Hein. C'est-à-dire que la sécurité attendue de l'État d'Israël doit s'accompagner de la sécurité pour l'État de Palestine. Quoi, vraiment, ce qui est dû à l'un est dû à l'autre.
Je suis très critique vis-à-vis, non pas seulement de la politique actuelle, mais de toute une histoire de la politique israélienne. Simplement, je ne veux pas que les critiques que je fais puissent être récupérées par ce que j'appelle les adversaires ou les ennemis, c'est-à-dire les gens qui considèrent qu'Israël n'aurait pas dû exister, que Israël aurait mieux fait de ne pas exister. Je ne peux pas accepter que mes critiques soient reprises. Donc il faut faire très attention, et c'est là que je parle de solitude, parce qu'il y a une solitude face à une certaine gauche anti-sioniste, aveugle, au relent d'antisémitisme qu'il peut y avoir dans un antisionisme excessif. Mais je suis aussi d'une solitude considérable avec les Juifs et avec un grand nombre de Juifs qui n'acceptent pas du tout, qui sont légitimistes, qui n'acceptent pas du tout qu'on critique la politique israélienne. Donc solitude des deux côtés.
Qu'il est difficile de dire « nous » et qu'il est difficile de pouvoir continuer de dire « nous ». À la tribune de la paix maintenant, elle disait « nous » et « aujourd'hui ». Qu'est-il advenu de la paix maintenant ? Et puis, pourquoi une partie de la gauche française, à laquelle elle voudrait toujours appartenir, a basculé dans cet antisionisme sans limite ? Que des Juifs, aujourd'hui, en France, soient contraints à quitter par milliers leur quartier, leur école, pour se mettre à l'abri dans des endroits mieux protégés, et que des municipalités de gauche voient cela se dérouler sur leur territoire et restent dans le déni, cela la révulse. Et quand se creusent de tels fossés, la camaraderie, les amitiés même, ne résistent pas à l'histoire.
France Inter. Intelligence. Service.
Monsieur Lebrun, Israël est un État-nation. Est-ce le cadre naturel de la vie politique pour Élisabeth de Fontenay ?
Oui, mais son État-nation, à elle, c'est la France. Elle ne conçoit pas d'autre patrie que la France. Elle a pour elle un amour mystérieux que, dit-elle, ne peuvent peut-être pas comprendre ceux qui ont moins de 40 ans et non plus ceux qui sont descendants de peuples colonisés. C'est pourtant avec eux que la France va continuer. À ceux qui s'inquiètent de la division du pays en communautés tentées par le repli sur soi et l'endogamie, elle répond « Il n'y a pas d'autre solution que l'exogamie, les unions diversifiées, et au bout de l'exogamie, des syncrétismes culturels, que cela plaise ou non. La France ne ressemblera donc pas à ce qu'elle fut. Mais n'a-t-elle pas toujours été un pays de sang mêlé ? L'hiver 1943-44, au pire de l'occupation, Lucien Febvre professait un cours au Collège de France sur ce thème, les sangs mêlés, en s'inspirant de Michelet, un des grands objets d'admiration d'Élisabeth de Fontenay.
Je me sens très romantique au sens où Michelet l'était. J'adore Michelet, je le lis souvent. Son rapport à la France est une chose qui m'émeut, son rapport à la Révolution française comme révolution d'une nation, m'émeut. Alors, je sais bien qu'on peut dire que la fin des grands empires et l'éveil des nationalités, ça a été la catastrophe pour les Juifs, je sais ça. Mais, bon,
J'aime l'idée de nation, j'aime l'idée de peuple. Et je pense particulièrement, quand je dis ça, à la France, à laquelle je suis extrêmement attachée.
Oui, mais toujours l'idée que la raison doit être en mouvement. L'emballement de l'idée de nation peut amener à l'abomination. En fille de l'Ouest, Élisabeth de Fontenay consacre son tout dernier livre à la Vendée pendant la Révolution. Elle constate que son maître, Michelet, si sensible au massacre de septembre 1792 et à la terreur, n'en parle que mezzo voce.
Élisabeth de Fontenay oppose le Michelet aveugle, le Michelet au cœur de pierre, le Michelet qui pleure sur la terreur, évidemment, mais qui ne dit pas un mot sur la Vendée, ou qui en dit très peu, qui passe là-dessus, à Hugo, et pour lequel elle a cette formule que je trouve extraordinaire. Je la prendrai volontiers pour moi-même. Évidemment, je ne me compare pas. Elle dit de Victor Hugo qu'il restera magnifiquement divisé. Hein, cette phrase, être magnifiquement divisé, ça veut dire, encore une fois, ne pas être amoindri dans ces divisions, mais être trouver une valeur, une force, une puissance. En fait, c'est le combat contre le fanatisme. C'est à la fois un combat contre le fanatisme et contre la tiédeur.
Certes, les Vendéens et les Chouans, en essayant de faire bloc avec les Anglais venus par la mer, mettaient la patrie en danger. Mais ce que la République a commis là-bas est inqualifiable, dépasse de loin les simples guillotinades.
Pourquoi qu'elle est là ?
La guillotine.
Où qu'elle va ?
Où qu'elle veut, pourvu qu'elle s'arrête pas là.
Par décret de la Convention nationale, sont condamnés à la peine capitale et mis hors la loi. Lantenac, ci-devant marquis.
Brigand.
C'est mon seigneur.
Limanus. Brigand.
C'est Gouge le Bruant.
Oui, c'est Brise Bleue.
Grand Franqueur. Brigand.
C'est la prêtre.
Oui, c'est monsieur l'abbé Turmont.
Picambois, Houzard, Bois Nouveau. Brigand. Guinoiseau, brigand. Sabretout, brigand. Danse à l'ombre, brigand. Rhin d'amour. Brigands, les sous-nommés, en quelque lieu qu'ils soient saisis, seront immédiatement mis à mort. Le délégué du comité de salut public, signé Simourdin.
Nous sommes dans le 93 de Victor Hugo, un livre auquel Élisabeth de Fontenay ne ménage pas son admiration. Alors, reprenons-en les différents personnages. Simourdin, donc, le représentant en mission du comité de salut public. Le marquis de Lantenac, le chef des Vendéens. Un personnage central est pris en tenaille entre les deux. C'est le chef de la colonne républicaine, Gauvin. Il doit tout à Simourdin, son ancien précepteur, qui le pousse à être impitoyable. Mais il est aussi le neveu de Lantenac, le chef des Vendéens. Il le fera s'échapper et c'est lui qui sera conduit à la guillotine par Simourdin. Élisabeth de Fontenay, comme Hugo, retient des épouvantables massacres commis en Vendée, quelques actes comme celui de Gauvin, des moments de grâce et de pardon posés par des personnalités qui se trouvaient devant des choix tragiques. Simourdin se suicidera après avoir fait exécuter son ancien élève qu'il aimait tant. Philippe Gimplowitz.
La Vendée, pour elle, pour Élisabeth de Fontenay, qui est une républicaine ardente, une personne engagée dans l'égalité, dans l'égalité des droits, dans la question des droits de l'homme, dans l'unicité de la patrie aussi. Hein. C'est quelqu'un qui se dit patriote, se trouve devant un dilemme, qui est plus qu'un dilemme, c'est un paradoxe épouvantable. C'est comment une histoire qui commence bien s'est terminée ou a continué de cette manière. Donc une histoire qui commence par la fête de la Fédération, le peuple tout uni se rendant au Champ de Mars, et trois ans ou quatre ans plus tard, ce qu'elle appelle les abominations en Vendée. Donc comment, à partir d'une cause qui est juste, une cause qui est défendable, on arrive à quelque chose d'indéfendable. Et c'est pas une question théorique pour elle, c'est une question profondément vécue. C'est comment faire coexister ceci en soi. Une double appartenance, et une double appartenance qui n'est pas une... C'est pas un assemblage de tiédeur, c'est pas une valse hésitation, c'est pas... comment dire, c'est pas je choisis ni l'un ni l'autre, c'est finalement tous vaut. Non, pas du tout. Ce n'est pas tous vaut, c'est chaque chose vaut ce qu'elle vaut, chaque chose doit être vivre dans, avec une, l'intensité maximum, et la question posée donc c'est comment vivre avec ça, comment vivre avec ça et comment solder tout ça. Et alors je dirais aussi comment, bon, j'ai parlé de faire coexister des contraires, mais ça commence comment nommer tout ça déjà.
Comment nommer tout ça? Les mots manquent là encore pour dire ce qui s'est passé en Vendée. Elisabeth de Fontenay refuse le parallèle, si commode pour les droites traditionnelles, avec ce qui s'est passé à l'époque nazie. Elle propose un rapprochement autrement vraisemblable, mais inflammable, avec les crimes des conquêtes coloniales. La chasse aux brigands de Toussaint Louverture, c'est 1801. L'enfumage des hommes, des femmes et des enfants enfermés dans des cavernes en Algérie, c'est les années 1830. La nation aurait réfléchi à ce qu'elle a fait en Vendée, qu'elle aurait peut-être évité certaines des horreurs des guerres coloniales. C'est la dernière leçon que nous donne une grande républicaine. Remerciements à Philippe Guimplowitz, à Catherine Bissière pour les lectures. Nous avons entendu des extraits du Petit Théâtre de la Jeunesse de Claude Santelli, de Tsahal, de Claude Lanzmann et du Bon Plaisir que René Elkaïm Bollinger avait consacré à Elisabeth de Fontenay sur France Culture. Prise de son, Nicolas Mathias, à la technique Marie Lepeintre et Antoine Espel. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. Et la réalisation, Audrey Ripouille, continuée par Étienne Bertin.